pour la grâce qu'il m'accorde d'être ce matin avec vous. J'ai dit aussi merci au pasteur Bundo pour la confiance en ma personne. Merci à maman Gisèle. Merci pour tout ce que vous êtes pour nous et pour tout ce que vous faites pour nous. J'ai dit aussi merci à tous les comités de l'Église. Amen. Je nous propose la lecture de la Bible dans le livre des Psaumes. Psaume 116, nous lirons du 1er au 8e verset. Psaume 116, 1 à 8. Il a séché mes larmes, c'est le thème que je nous propose ce matin. J'ai lu les textes bibliques. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve-moi. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos. Car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Amen. Un texte magnifique. Il a séché mes larmes. C'est un témoignage des bontés de Dieu. Dans ce texte, donc, les psalmistes témoignent les bontés de Dieu dans sa vie. Il a connu une grande épreuve, il a fait face à un grand danger, il a crié à l'Éternel et l'Éternel l'en a délivré. Alléluia. Quelle est donc cette épreuve? Ou de quelle épreuve parlait-il? Au verset 3, il dit, les liens, il parle des liens de la mort. Il parle des angoisses du sépulcre. Il dit, la mort me tenait déjà attaché. Le monde des morts m'avait pris dans ses chaînes. J'avais peur et j'étais très malheureux. En fait, on voit qu'il a rencontré une épreuve qui l'a poussé à avoir peur, pas seulement à avoir peur, mais à se sentir malheureux. Malheureux et... L'épreuve l'a même poussé à pleurer, à verser des larmes, à perdre espoir, à croire que tout était fini pour lui. Bon, on pense qu'il s'agissait d'une maladie mortelle. Mortelle. Alors comment a-t-il réagi? Et ça c'est très important. Comment les psalmistes réagit-ils? Lisez avec moi ce qu'il dit au verset 4, il dit « Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. » Il ne s'est pas tourné vers les hommes. Il ne s'est pas tourné vers la magie. Parce qu'il arrive que quand on a des difficultés, on a des problèmes, que l'on se tourne vers des magiciens, vers des féticheurs, n'est-ce pas, vers des hommes, pour trouver la réponse, la solution à nos problèmes. Et parfois, l'on parle de la santé à tout prix. J'accepte tout pourvu que je guérisse. Ah non, pas la santé à tout prix. L'enfant de Dieu, lorsqu'il est malade, il ne cherche pas la santé à tout prix. Non, il crie vers Dieu. Il crie vers Dieu. Il ne cherche pas la guérison, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, dans l'occultisme, dans la magie. Ah non, est-ce que vous êtes avec moi? Il a crié vers l'Éternel. Il dit, ô Éternel, sauve mon âme. Sauve mon âme. Et la Bible nous fait voir que le Seigneur est intervenu. Parce que Dieu intervient toujours dans les affaires de ceux qui lui appartiennent. Et c'est ce qui témoigne au verset 8. Il dit, oui, tu m'as arraché à la mort, Seigneur. J'aime ce qu'il dit ici. Tu m'as arraché à la mort, Seigneur. Il dit, tu as séché mes larmes. Alléluia. Tu m'as évité de faire les pas fatals. Tu m'as arrêté à temps. Tu m'as arrêté à temps. On voit donc que Dieu délivre de la mort. Peu importe les pièges que l'on peut nous tendre, pour que nous mourions, Dieu nous délivre de ces pièges. On peut nous tendre des pièges sans que nous les sachions, surtout aujourd'hui en politique, et même à l'église, n'est-ce pas? Mais Dieu est celui qui nous délivre de tout cela. Et c'est important que nous apprenions dans nos vies à lui faire confiance tous les jours de notre vie. Très important. Dieu délivre de la mort et Dieu sèche les larmes, quelles qu'elles soient, ou de quelque origine que ce soit. Il sèche les larmes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pleure ce matin. Je lui dis que Dieu sèche les larmes. Et Dieu nous évite de faire les pas fatals. Donc c'est un témoignage, n'est-ce pas? Il a séché mes larmes d'un homme qui a expérimenté la grâce de Dieu, qui a expérimenté les bontés de Dieu, qui a expérimenté l'intervention de Dieu dans un temps difficile, dans un temps des larmes, dans un temps de maladie. Il a crié à Dieu et le Seigneur est intervenu. Et ça c'est magnifique. Je dis que Dieu intervient toujours lorsque son peuple crie à lui. Et à cause de cette intervention, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Il y a trois effets que l'intervention de Dieu dans sa vie produit. Trois effets, n'est-ce pas? Dans sa vie, il y a, au verset 1, il dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. » Au fait, il y a encore plus d'amour pour Dieu dans son cœur. À cause de ce que Dieu a fait pour lui, il y a plus d'amour. Il aime Dieu davantage, plus d'attachement à Dieu, plus d'engagement à Dieu. C'est important, mes frères, que lorsque Dieu intervient dans nos vies, que nous puissions l'aimer davantage, que nous puissions nous attacher à lui davantage, que nous puissions lui être beaucoup plus loyal. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il peut arriver, mes frères, que nous prions, nous cherchons le Seigneur, il nous ouvre une porte et l'on fuit l'église. N'est-ce pas vrai? Nous prions le Seigneur, n'est-ce pas? Nous le cherchons, Dieu intervient et après on cherche à protéger ce que nous avons reçu de Dieu, sa bénédiction. Dieu peut nous donner donc des enfants. Et nous allons pour qu'on leur mette des ficelles autour des hanches pour qu'ils soient protégés. Non. Dieu m'élève dans la société, n'est-ce pas? Et l'on veut toucher à gauche et à droite pour protéger cette élévation. Non, mes frères. Dieu protège toujours ce qu'il nous donne. Il affermit toujours ce qu'il fait pour nous. Si Dieu vous élève, il va protéger cette élévation. Si Dieu vous bénit, il va protéger cette bénédiction. L'essentiel, c'est que vous appreniez à continuer à lui faire confiance. Alléluia. Donc Dieu est intervenu, alors il a plus d'amour pour Dieu. Y a-t-il encore aujourd'hui des gens qui aiment Dieu? Qui lui sont, n'est-ce pas, qui sont loyaux? Des gens qui l'aiment de tout leur cœur. Deuxième effet, il y a encore plus de confiance en Dieu. Il dit, je l'invoquerai toute ma vie. C'est une décision qu'il prend. Parce que j'ai expérimenté ta grâce. Parce que j'ai expérimenté ta main dans ma vie. Eh ben, j'avais un grand problème, un sérieux problème. Je me suis inquiété, je regardais à gauche, à droite. J'avais très peur, j'ai tremblé. Mais je me suis rendu compte que ma solution ne peut pas venir de la peur. Je ne dois pas continuer à pleurer. Je ne dois pas continuer à avoir peur. Mais je dois me tourner vers Dieu. Je me suis tourné vers lui. Je l'ai cherché et il est intervenu. Désormais dans ma vie, je l'invoquerai. Quels que soient les cas, quelles que soient les circonstances, je l'invoquerai. Il y a plus de confiance. Plus de confiance. Alléluia. Si Dieu est intervenu hier dans votre vie, Il est capable d'intervenir encore aujourd'hui et demain. Si jusque-là, le Seigneur vous a secouru, n'est-ce pas? Croyez que demain et après-demain, il va encore vous secourir. Les mêmes d'ailleurs qui vous a protégé dans les lieux secrets, lorsque nous étions encore dans le ventre de nos mères, j'ai dit merci à Dieu pour nos mamans. En tout cas, plus l'on grandit, plus l'on se rend compte que les mamans sont importantes. Est-ce que les mamans sont d'accord avec moi? Les mamans sont importantes. Pendant 9 mois dans le ventre, les mamans sont importantes. Les femmes sont importantes. Il faut seulement vous marier. Quand une jeune fille se marie et qu'elle commence à avoir des enfants, c'est là où elle se rend compte que sa maman est très importante. Parfois, c'est la maman qui vient pour roder sa fille, n'est-ce pas vrai? Pour l'aider. Les mamans, est-ce que les mamans... Oui. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans? Oui. Donc, je disais que si Dieu nous a gardés et protégés, alors que nous étions encore dans les lieux secrets, dans les ventres de nos mamans, et s'il a permis que nous naissions, et même que nous grandissions, il est capable d'assurer notre avenir. Donc, encore plus de confiance. Parce que Dieu me donne la vie aujourd'hui, ce que je n'ai pas reçu hier, je peux l'obtenir aujourd'hui. Une nouvelle journée, une nouvelle opportunité. Il m'a gardé, il me gardera et il va encore intervenir de manière puissante dans ma vie. Il fait toujours au-delà même de ce que nous pensons et lui demandons. Si hier il m'a exaucé, demain il le fera encore. Il dit, je l'invoquerai toute ma vie. Amen. Un troisième effet, on voit en lui encore plus de connaissance de Dieu. Il connaît Dieu dans les autres aspects, n'est-ce pas, des dieux. Et c'est ce qu'il, déjà, n'est-ce pas, au verset 2, il a dit, il a penché vers moi son oreille, je l'invoquerai toute ma vie. Mais il ne s'arrête pas là. Au verset 5, il dit, l'Éternel est miséricordieux et juste. Ah, vous voyez, Dieu est intervenu. Au fait, j'ai expérimenté quoi ça? Miséricorde. Il dit, notre Dieu est plein de compassion. Il est compatissant, il souffre avec celui qui souffre. Est-ce que Dieu me voit dans mes problèmes, dans mes difficultés, dans mes joies, dans mes larmes? Oui. Est-ce que Dieu me connaît dans ce que je suis, dans ce que je fais? Oui. Je l'ai dit toujours, Dieu ne me connaît pas, hein, parce qu'il y a eu une prophétie. Généralement, c'est ça. Quand une prophétie sort, mon enfant, ma fille, je te connais. Voilà ce que je vais faire dans ta vie. Alors on dit, oh, Dieu me connaît. Dieu me connaît. Non, Dieu ne me connaît pas forcément parce qu'il y a une prophétie, une parole de connaissance. Dieu me connaît parce que je lui appartiens. Il connaît mes joies. Il connaît mes larmes. Il connaît mes épreuves. Et il est avec moi. Et il est compatissant. Il compatit avec moi. Et il ne s'arrête pas là au niveau de voir, n'est-ce pas? Mais il intervient aussi. À cause de sa bonté, il intervient dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Alors le psalmiste dit, Dieu est compatissant. Dieu, n'est-ce pas, est miséricordieux. Il découvre Dieu dans une autre dimension. Dieu est le Dieu de miséricorde. Dieu est le Dieu de compassion. J'aimerais nous rappeler que Dieu est le Dieu de compassion. Que Dieu est miséricordieux. Ses compassions ne s'arrêtent pas à ces psalmistes ou aux hommes du passé. Nous aussi, nous pouvons tous les jours de nos vies expérimenter sa miséricorde, ses compassions, et c'est intéressant que nous comptions sur ses compassions, sur ce Dieu compatissant qui intervient dans nos vies et qui nous ouvre de portes par sa grâce. Amen. Donc voilà un peu les trois effets qu'a produit l'intervention de Dieu dans la vie de cet homme. Hein, Dieu est intervenu et Dieu a séché ses larmes. J'ai dit que Dieu prend plaisir à sécher nos larmes, à sécher nos larmes. Et vous le savez, mes frères, que les larmes font partie de notre existence. N'est-ce pas vrai? Les larmes. Nous pouvons, de manière générale, expérimenter trois types de larmes. Les larmes de joie, les larmes de tristesse et les larmes de repentance. Trois types de larmes. Parlons de, n'est-ce pas, hein, des larmes de joie. Les larmes de joie peuvent venir d'une réussite. réussite à l'école, aux examens d'État, comme il y a quelques jours passés, nos frères, nos sœurs, nos enfants qui ont réussi. Et c'est magnifique lorsqu'un enfant réussit. Vous voyez comment les gens se réjouissent, n'est-ce pas? Partout, on se réjouit. On peut même pleurer parce qu'on est rempli de joie, de larmes de joie. On réussit à l'école, il y a un projet qui a bien marché, un projet que j'ai soumis à mon chef, n'est-ce pas? Il l'a accepté et on est rempli de joie au point même de pleurer. Et ce qui est intéressant, mes frères, c'est que Dieu prend plaisir à remplir nos vies de joie, nos vies de paix, nos vies de satisfaction. Amen. Ça, c'est vrai. Les larmes peuvent aussi venir d'un mariage. On s'est marié. On a trouvé une âme sœur. Vous savez, ce n'est pas facile de trouver une âme sœur. Ce n'est pas facile. On peut chercher. On peut prier. Et parfois, les yeux ne s'ouvrent pas pour la voir, pour la découvrir. On attend. Mais parfois, la porte ne s'ouvre pas. Il ne vient pas. Mais lorsqu'il vient, lorsqu'on la trouve, lorsqu'on les trouve, on est rempli de joie. On peut même pleurer, verser des larmes de joie. On voit aussi, je ne sais pas si chez vous ça se passe, mais chez nous, parfois quand il y a mariage, lors des échanges de vœux, il y a des gens qui pleurent, qui versent quelques larmes. Est-ce que ce sont des larmes des douleurs? Non, ce sont des larmes de joie. On est rempli de joie. On a attendu ce moment et Dieu nous ouvre une porte. On se marie, on verse des larmes. Alléluia. On verse des larmes. Dans la Bible, il y a, quand on parle de la naissance d'Obed, on voit comment cette naissance était pour Naomi une consolation. Une consolation. Elle est consolée. Et les gens l'entourent pour lui dire, voilà, Dieu t'a visité. Dieu t'a visité. Une consolation. Après un temps d'amertume, Dieu l'a consolée. Dieu l'a consolée. On voit lors de la naissance de Samuel, comment Anne s'est réjouie. La naissance de cet enfant était une source de bonheur pour elle. Le bonheur. Elle a persévéré dans la prière. Le Seigneur l'a exaucée. Mes frères, Dieu écoute la prière persévérante de ses enfants. Anne a persévéré alors que la douleur remplissait son cœur. Elle avait une grande attente vers Dieu et elle a continué à chercher Dieu. Et Dieu est venu la consoler. Il y a des larmes, n'est-ce pas? Des joies, n'est-ce pas? Amen. Des larmes et des joies. À côté des larmes de joie, il y a des larmes de douleur, des larmes de souffrance, des larmes parfois de désespoir, des larmes qui peuvent venir peut-être d'un échec, échec à l'école, échec sur le plan professionnel, un échec. Et si la réussite, n'est-ce pas, les succès nous remplissent de joie ou des larmes de joie, les échecs, par contre, nous remplissent de quoi? De désespoir, de découragement. On se décourage, on perd espoir. Les larmes des souffrances peuvent aussi venir d'un problème de mariage. J'ai parlé du mariage, il y a des gens qui peuvent se dire, mais à quand mon mariage? On s'est dit, est-ce qu'un jour la porte du mariage va s'ouvrir pour moi? Et parfois on pleure, on se lamente, on est dans le désespoir. Parfois quand on voit ses propres sœurs qui sont encore à la maison, qui ne sont pas encore mariées, ou qu'il y en a qui étaient mariées, qui sont revenues à la maison, on se pose des questions. On est rempli d'inquiétude, on est rempli, n'est-ce pas, d'angoisse. Mais j'ouvre une parenthèse ici pour dire qu'il faut éviter le mariage pour le mariage. Parce que ça ne vient pas, j'ai dit oui au premier venu. Quel qu'il soit, non. Pas le mariage pour le mariage. Il ne vient pas encore, j'attends. Mais je continue à chercher Dieu. Et je continue à prendre soin de moi et de ma personne. Amen. Pas le mariage pour le mariage. En tout cas, il n'y a pas de relation entre lumière et ténèbres. Même dans les mariages, ça s'applique. Peut-être que nous ne comprenons pas, mes frères. Ceux qui ont connu le Seigneur appartiennent à un autre monde que ceux qui ne l'ont pas encore connu. Même s'ils ne sont pas versés dans l'occultisme, mais en fait, nous appartenons à deux mondes différents. Le chrétien est un enfant des lumières. Il appartient au royaume des lumières. Mais celui qui n'est pas Dieu, il appartient à quel royaume? Des ténèbres. Il est loin de Dieu. Vous voyez, deux mondes différents. Alors, devons-nous nous mettre ensemble, nous lier par les liens du mariage? Non, pas le mariage pour le mariage, parce que ça ne vient pas. Hein. Je fais ce que je veux, parce que ça ne vient pas. J'accepte seulement d'aller chez lui, même avant le temps, avant qu'il n'honore les parents et qu'il m'honore devant l'église. Non, j'ai dit non. J'attends. Amen. Mais ce qui est vrai, c'est que l'on peut verser des larmes, des tristesses, des désespoirs, parce que jusque-là, le mariage ne vient pas. Les larmes, des désespoirs ou des tristesses peuvent aussi venir à cause d'un espoir brisé, des divorces, les fiançailles rompues, une promesse non tenue. Et on peut allonger la liste. On regrette. Mais je nous pose une question. Un chrétien peut-il rencontrer des temps de pleurs et des larmes dans sa vie? Oui. Oui. Est-ce à dire que Dieu m'a abandonné parce que il y a des épreuves qui m'arrivent, parce que je passe par des temps difficiles? Est-ce à dire que Dieu m'a abandonné? Que Dieu ne me connaît plus? Je l'ai déjà dit. Dieu ne m'a pas abandonné. Ésaïe dit, une mère abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait? Est-ce qu'elle peut l'oublier? Je viens de louer les mamans. Est-ce que une maman peut oublier l'enfant qu'elle allait? Non, jamais. Et Dieu dit, même si elle l'oublierait, c'est dans Ésaïe 49, même si elle l'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Jamais je ne t'oublierai. Dieu ne m'oublie pas parce que je passe par des temps difficiles. Alors, dois-je désespérer à cause des afflictions ou des épreuves? Non. Quelle attitude, quelle réaction alors avoir dans l'affliction, dans les épreuves? La réaction naturelle, c'est l'abattement, c'est le désespoir. Et certaines personnes tentent même de se suicider. On se suicide. Mais que doit faire le croyant? Que doit-il faire? Qu'a fait les psalmistes ici? Il dit, il a crié à Dieu et il a continué à espérer en lui. Les croyants doivent crier à Dieu. Les croyants doivent continuer à compter sur lui et sur sa bonté. Amen. C'est important. Quelle attitude face aux larmes? Crier à Dieu. Crier à Dieu. Et ce qui est vrai, selon ces textes, Dieu sèche les larmes. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 1, 4, la Bible dit qu'il nous console dans toutes nos afflictions. Il nous console. Dieu est le Dieu de consolation. Il vient apaiser nos cœurs. Il vient essuyer nos larmes. Il nous console. Nous pouvons, dans nos afflictions, compter sur Dieu et nous tourner vers lui. Dans les livres des psaumes, dans psaume 31, la même pensée se trouve aussi dans Jérémie 31, 13, la partie B, n'est-ce pas? J'aime aussi ce texte qui dit que Dieu change les deuils en joie. Il change les deuils en joie. Je pleure, oui, mais Dieu vient, il essuie mes larmes, il ne s'arrête pas là, mais il change mes larmes, il change mon deuil en joie. Alléluia! Il change les deuils en joie. Et ma prière ce matin, c'est que tes larmes de tristesse, c'est que tes larmes de douleur se changent en larmes de joie. J'ai prié que Dieu visite quelqu'un qui pleure ce matin. Que Dieu le visite. Que Dieu sèche ses larmes. Et que ses larmes se transforment en larmes de joie. C'est ma prière ce matin. 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 Et je reprends ce que j'ai dit. Que chaque fois que Dieu me donne la vie, que Dieu me réveille, c'est une opportunité pour expérimenter plus. Et même chaque dimanche, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, c'est une opportunité d'expérimenter la grâce de Dieu, d'expérimenter sa faveur, d'expérimenter encore son intervention dans nos vies. Et c'est intéressant de nous attendre toujours à Dieu lorsque nous venons dans sa maison, ayant le cœur ouvert.
les cœurs ouverts et attendons-nous à ce qu'il nous visite, à ce qu'il nous touche. Généralement, on croit que Dieu m'a touché parce que je suis tombé. Parce qu'il y a eu des gens qui ont crié que Dieu m'a visité, que Dieu nous a visité. Dieu parfois agit dans le silence. Mais il touche nos cœurs. Il transforme nos vies. Il touche nos corps. Il nous guérit de nos maladies. Et même, il intervient par rapport à nos projets, par rapport à notre avenir. Il intervient. Là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Mais lorsque Dieu est au milieu de nous, c'est que de manière générale, il agit. Parce que nous sommes une église, il nous bénit. Mais de manière particulière, il touche chacun de nous dans sa particularité et dans ses besoins particuliers. Alléluia. Dieu est celui qui sèche nos larmes. Mais souvent, nous sommes si occupés de notre douleur, de notre tristesse, de notre peine, que nous oublions ce troisième type de larmes, pourtant nécessaires dans notre relation avec Dieu, et même une source de bénédiction. Je parle des larmes de repentance. Larmes de repentance, c'est le troisième type de larmes, larmes de repentance. Mes frères, Dieu aime les larmes de repentance. Malheureusement, dans l'église, ces larmes sont rares parfois, rares. Plusieurs fréquentent l'église, mais restent païens, restent adultères, restent voleurs, méchants, menteurs, escrocs, ivrognes. Et on peut aussi trouver plusieurs personnes qui vivent en couple, mais sans être légalement mariées. On peut trouver toutes ces personnes dans l'église. Je suis chrétien. Mais au fait, il ne l'est pas réellement. Il n'y a pas, j'aime beaucoup parler de ce contraste. Là où Paul dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Il dit, marchez comme des enfants de la lumière. Parfois, il n'y a pas ce contraste dans l'église. On se dit enfant des lumières, mais l'on vit comme un enfant des ténèbres. Des ténèbres. Et les larmes de repentance sont très importante. Il y a deux cas dans la Bible. Le cas de Judas, que vous connaissez, et le cas du fils prodigue. Judas était l'un des disciples de Jésus. Quel privilège, disciple de Jésus. Vous savez que à l'époque de Jésus, c'était un honneur d'être un disciple d'un grand rabbin. Un honneur, un honneur. Mais Judas est un disciple de Jésus. Jésus, c'est plus que ces grands rabbins de l'époque. N'est-ce pas vrai? Disciple de Jésus, le Seigneur. Il assumait une grande responsabilité au sein du groupe. Qui était-il? Il était le financier du groupe. Malheureusement, que faisait-il? Il volait l'argent du groupe. Voleur. Voleur. Et personne ne le savait. Pierre ne le savait pas. Jean ne le savait pas. Est-ce que Dieu le savait? Oui. Les pasteurs ne voient pas. Maman ne voit pas. Les autres ne voient pas. Mais est-ce que Dieu voit? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce qu'il connaît le fond de mon cœur? Oui. À quoi bon se cacher devant les hommes si l'on ne peut pas se cacher devant Dieu? Soyons vrais, mes frères. Que ce que nous sommes au dehors soit aussi ce que nous sommes au dedans. Lorsque je me dis que je suis chrétien, que je crains Dieu, je suis serviteur, eh bien, mes frères, il faut que du dedans que nous le soyons aussi. C'est important. Si on ne l'est pas, on doit se repentir. Et Dieu a besoin des larmes de repentance ce matin. Des larmes de repentance. Judas avait évangélisé avec les autres. Jésus donnait des TP, des travaux pratiques à ses disciples. Par moments, il sortait pour évangéliser. Il priait pour des gens qui étaient guéris. Vous connaissez cet épisode lorsqu'il rentre. Ils disent, les démons nous sont soumis. Nous sommes soumis. Mais Judas était parmi ces gens. Je pense que les démons, n'est-ce pas, lui étaient aussi soumis. Il était là. Il était là. Mais à la fin, que lui est-il arrivé? Il a trahi son maître. Un privilège qu'il a négligé, une grâce qu'il a reçue de Dieu, qu'il a négligé, Ne négligeons pas la grâce de Dieu. Être même membre de l'Église, c'est une grâce.
Avoir la carte des membres de l'Église, ah mais c'est bien, mais ne nous arrêtons pas au niveau de la carte des membres. Soyons vrais. Amen. Amen. Très important.
Dans Matthieu 27, 3, la Bible soutient, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. On dit Judas qui l'avait livré, n'est-ce pas? S'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent. Et après, il s'est pendu. Était-elle une vraie repentance? Non. Judas n'a pas pleuré de pleurs de repentance. Non. Il ne s'agissait que de remords. De remords. Sa conscience l'avait reproché, mais ne s'était pas repenti. On peut juste sentir des remords. Dieu nous interpelle, mais il n'y a que des remords. On ne se répand pas sincèrement. On regrette, oui, mais lorsque l'on quitte l'église, l'on reprend, n'est-ce pas, l'on continue dans ses anciennes habitudes, dans ses mauvaises habitudes. Ce n'était pas une vraie repentance. La vraie repentance a triple effet. Le premier, elle touche l'intellect. L'aspect cognitif, elle touche l'intellect. On prend conscience de son péché. On prend conscience que l'on vit mal, que l'on vit loin de Dieu, qu'on vient à l'église, mais on a un faux. On prend conscience. On reconnaît qu'on a mal agi. Le deuxième effet, c'est que la vraie repentance touche les sentiments. On éprouve de la tristesse. On éprouve du chagrin, parfois même de la honte. Et cette tristesse pousse les pécheurs à se tourner vers Dieu pour être pardonné. La tête est touchée, je prends conscience que je suis loin de Dieu, mais les sentiments sont aussi touchés, n'est-ce pas? J'ai de la honte, on éprouve de la tristesse, mais pour nous pousser à nous tourner vers Dieu, on confesse son péché et on s'engage à ne plus tomber dans ses péchés. On s'engage désormais à marcher avec Dieu et à ne vivre que pour lui. Amen. Alléluia. C'est ici qu'intervient le deuxième cas, celui du fils prodigue. Dans Luc 15, 17 à 21, je vais juste lire les textes. Il dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Donc il y a deux types de repentance ici, celle de Judas qui n'était que remords, qui n'était que des façades, n'est-ce pas, et celle du fils unique, ça c'est du fils prodigue. Ça, c'est la vraie repentance, n'est-ce pas? Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchais contre les cieux et contre toi. Il est conscient qu'il est loin de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Il est conscient. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Au verset 20, la Bible dit, il s'éleva. Il a pris la décision et maintenant, il exécute. Il se leva et alla vers son père. Au verset 21, il est dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre les cieux et contre toi. Il reconnaît son péché. Il y a conviction du péché. Conviction du péché. Bref, trois types de larmes. Et Dieu aime sécher nos larmes. Avez-vous ce matin les larmes de joie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques, qu'il bénisse le Seigneur, qu'il le loue, qu'il offre à Dieu des actions de grâce? Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Y a-t-il quelqu'un qui verse des larmes, des souffrances, des tristesses, qu'il prie? Et ce matin, j'aimerais pour moi que nous puissions prier aussi dans ce sens. Quelqu'un se sent-il interpellé par Dieu et qu'il veut retourner à Dieu? Dieu aime les larmes de repentance. Vous pouvez revenir à Dieu. Il ne va pas vous rejeter. Dans ma vie, j'ai vu des gens dans la douleur. Il y a particulièrement un ami, un pasteur, qui s'est marié. Mais pendant 8 ans, pas d'enfant. Un pasteur, mes frères. Tout le monde le voit, tout le monde le connaît. Et il célèbre même des mariages à l'église. Et qu'est-ce que les gens disent? Vous savez que parfois, nous les fidèles, parfois, n'est-ce pas, nous avons notre façon de regarder nos conducteurs. Et que disaient les fidèles? Ils bénissent les mariages, ceux-là ont des enfants et eux-mêmes. On se dit, mais est-ce qu'on doit vraiment se laisser nos têtes pour qu'ils nous bénissent, qu'ils imposent des mains sur nous, qu'ils bénissent notre mariage? Lui-même n'a pas d'enfants. Est-ce que s'il nous bénit, nous aurons des enfants, nous? Voyez mes frères. Mais 8 ans après, Dieu est intervenu. Dieu a séché leurs larmes. Parce que Dieu intervient toujours dans la vie de ses enfants. Peu importe les temps, continuez à lui faire confiance. Dieu intervient. Il y a eu un deuxième. Il y a eu un troisième. Et il dit non, on s'arrête encore là. Avant, la porte était fermée, mais maintenant elle s'est ouverte. Et elle est grande, elle s'est ouverte grandement. Il arrête. Dieu essuie les larmes, mes frères. J'ai aussi vu des gens vivant loin de Dieu qui ne croyaient pas au pardon de Dieu. Oui. Mais qui sont venus vers le Seigneur. Elle pleure. Dieu a pardonné. Dieu a restauré leur vie. Ils sont des hommes heureux aujourd'hui et ils servent les seigneurs sans tristesse et sans remords. Dieu peut aussi vous pardonner ce matin. Dieu peut aussi vous accueillir comme ce père qui a accueilli cet enfant qui est revenu vers lui. La Bible dit revenez, revenez enfant rebelle, je vous accueillerai. Y a-t-il un fils prodigue ici? Y a-t-il un enfant rebelle ou quelqu'un, n'est-ce pas, qui se dit chrétien, mais qui ne l'est pas en réalité? Revenez vers Dieu. Il va vous accueillir. Bref, Dieu essuie nos larmes. Larmes de tristesse, il les essuie. Larmes de repentance, il les essuie. Il ne rejette personne. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Pendant un moment, nous allons prier le Seigneur. Nous avons nos têtes courbées et nos regards fixés vers Dieu. Lui qui nous connaît tel que nous sommes. Et en rapport avec ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu vous a dit, est-ce que chacun peut élever sa voix et prier le Seigneur? Prier le Seigneur, peut-être dans la repentance, peut-être en cherchant le secours de Dieu dans votre situation particulière. Dans votre preuve, je ne sais pas, cette sorte de larmes qui ruissellent, qui sortent de vos yeux, je ne sais pas. Mais que chacun prie le Seigneur. Que chacun prie le Seigneur. Nous nous tenons devant Dieu. Nous nous tenons devant le Seigneur ce matin en lui disant, Seigneur, tu connais mes larmes. Tu connais mes larmes. Quelqu'un peut-être va dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour ces larmes de joie. Merci, merci pour toutes ces larmes de joie. Merci pour cette promotion. Merci pour cet enfant que tu m'as donné. Merci pour ces maris, merci pour cette femme, merci pour cette maman. Merci, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi hier. Je ne m'attendais pas à cette intervention, mais tu es intervenu. Tu as agi en ma faveur, Seigneur, merci. Je t'ai dit merci, je t'ai dit merci. Peut-être que quelqu'un d'autre va dire, Seigneur, il y a en moi de la tristesse. Je pleure. Cette situation me trouble. J'ai besoin de ta paix. J'ai besoin que tu essuies mes larmes. Oui, Dieu essuie les larmes. Prions ce matin. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, est-ce qu'on peut prier pour moi?
Quelqu'un a-t-il besoin de la prière? Il peut s'élever, nous allons prier pour lui. Un besoin particulier de la prière, surtout en rapport avec les larmes. Vous avez besoin que Dieu sèche vos larmes. Il y a une porte qui doit s'ouvrir, mais elle ne s'ouvre pas encore. Et vous croyez que ce matin, Dieu est capable d'intervenir et de l'ouvrir. Levez-vous tout simplement. Si la chorale peut nous accompagner avec un cantique pendant que nous nous levons. Alléluia, alléluia. Alléluia. Vous croyez que ce matin, Dieu essuie les larmes, que Dieu intervient, que Dieu bénit, que Dieu agit, même au-delà de nos espoirs les plus grands. Levons-nous, mes frères. Alors que nous sommes debout, nous prions les Seigneurs, nous nous tournons vers Dieu, nous nous tournons vers les Seigneurs, pour que lui seul essuie nos larmes et qu'il intervienne. Nous qui sommes assis, prions pour nos bien-aimés qui sont debout. Que Dieu intervienne dans leur vie, que ce matin, que Dieu essuie leurs larmes et que Dieu agisse en leur faveur. Lui qui est intervenu dans la vie de ces psalmistes, qu'il intervienne aussi dans leur vie. Lui qui n'a jamais changé. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble.
Nous allons prier. Avant de prier ce matin, j'aimerais aussi que nous puissions nous adresser à une catégorie de personnes. Le pasteur a parlé des larmes de repentance. Vous savez que vous êtes loin de Dieu. Vous n'avez jamais fait la paix avec Dieu. On ne parle pas d'église. Peut-être vous êtes membre d'église. Peut-être même membre de celle-ci. Mais vous savez qu'au fond de vous, vous êtes loin de Dieu. Est-ce qu'en ce matin, si vous êtes là, je vous prierai de vous lever. Vous qui voulez faire la paix avec Dieu, vous n'avez jamais, jamais fait la paix avec Dieu. Ou peut-être même vous étiez en train de marcher avec Dieu, mais au bout d'un moment, vous vous êtes relâché. L'occasion nous est donnée encore ce matin. Merci pour ceux qui se lèvent. Seigneur notre Dieu, en ce matin, nous venons devant toi, nous nous présentons devant toi. Tu es celui qui sèche les larmes. Dieu, toi qui sèches les larmes. Les hommes viennent avec des paroles, les hommes viennent avec des mouchoirs. Les hommes arrivent à peine à essuyer les larmes. Mais Seigneur, toi tu les sèches. La source qui nous fait pleurer, tu l'éteins. Éternel, nous te bénissons pour ce message. Et prions que tu essuies les larmes. Tu connais dans cette assemblée ceux qui pleurent et tu sais ce qui nous fait pleurer. Passe ce matin. Passe, Seigneur, traverse les rangées, les bancs dans tout cet enclos. Et même ceux qui nous suivent au travers de la télé, au travers des réseaux sociaux, essuie les larmes. Essuie les larmes. Seigneur, je te présente aussi mon frère et ma sœur qui veut faire la paix avec toi, qui veut marcher avec toi. Accepte-le dans ta maison et essuie ses larmes au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur.